Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
E va bene lo so, oh, oh. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina.
Ma tu non piangere. Non si.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9:30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Bonjour Michelino, come va?
Tutti. On rigole parce que à chaque fois dans le jingle, on dit il fait beau ici. Et en fait, depuis qu'on est là, on a toujours.
Ou la pluie ou le ciel.
On a une petite fenêtre qui nous permet de voir le ciel. Et c'est vrai que depuis quelques.
On va survenu, pas dire quelques mois. Beau, ouais.
Alors, elle nous charrie, la Cantaline,
depuis l'année dernière.
La Corse. Alors, évidemment, elle a eu un soleil terrible.
Hein, on a emmagasiné un peu de vitamine D.
Bon, c'est super. On vous salue, on vous souhaite un bon dimanche. Alors, je vais vous donner le programme de cette troisième partie. Alors, donc, bonjour aux amis du dimanche matin, puisque l'émission, oui, c'est toujours le dimanche matin. Aujourd'hui, on salue et chapeau bas à l'Atalanta Bergamo, qui a fait honneur à l'Italie avec le signor Gasperini. Grande Bergamo. Bravo à eux. Ils ont gagné 3-0 la Ligue Europa. Ça faisait 25 ans que l'Italie n'avait pas gagné cette Coupe d'Europe, et c'est la première fois d'ailleurs qu'ils gagnent cette Coupe d'Europe avec ce nouveau nom. Et puis, on vous propose aujourd'hui des infos ciné avec Alain Amengual, qui est à côté de nous, et puis on aura un insert téléphonique avec Giulio Serafini pour la reprise de la pièce de théâtre Pirandello Suite au théâtre de l'Épée de Bois dans le 12e arrondissement. Et on aura aussi, bien sûr, l'écrivain, journaliste, opinionniste et ami Alberto Toscano, qui est notre invité pour la sortie de son livre qui s'appelle « Camarade Balabanov » aux éditions Armand Collin. Je pense qu'on va être plutôt côté gauche aujourd'hui avec ce livre, mais c'est vrai que c'est une personne qu'il faut vraiment mettre à l'honneur, cette camarade Balabanov. Alain,
oui.
Come stai?
Benone, come.
Come va il ciné italien?
Le cinéma italien va, c'est bien. Le cinéma italien a été représenté à Cannes avec Paolo Sorrentino, le Napolitain qui est fidèle à sa ville, et cette ville qui a eu ce film qui a eu un assez beau succès qui s'appelle Partenope, donc qui est de toutes les origines de Naples. On ne sait pas quand on le verra sur les écrans français. Sinon, l'actualité à Paris, c'est un film de Christophe, enfin à Paris en France, de Christophe Honoré. Christophe Honoré qui a commencé par faire un petit peu des imitations de la Nouvelle Vague, des films chantés à la Jacques Demy. Et là, il nous fait un film avec Chiara Mastroianni, sa mère Catherine Deneuve, Marcello Mio. Voilà, c'est un film un peu surréaliste puisque la fille Chiara joue le rôle de son père et discute avec sa mère de comment ils ont vécu des choses. Donc c'est un peu surréaliste, c'est à voir, surtout à voir pour la fin, puisqu'au début on est en France et ensuite ils vont en Italie. Et là, il y a une star que je vous laisse découvrir dans un talk show à l'italienne. Et il y a une très belle chanson de Luigi Tenco, « Mi sono innamorato di te ». Voilà. Donc je conseille quand même de voir ce Marcello Mio, donc de Christophe Honoré. Sinon, le grand événement, c'est la Cinémathèque pour cette saison, après Rossellini Antonioni, qu'on a vu en automne et en hiver. Maintenant, il nous propose une rétrospective Valerio Zurlini. Il a été un petit peu, c'est un portraitiste de l'Italie des années 60 qui a été un peu écrasé par les grands de la comédie italienne, Monicelli, etc. Mais c'est un grand portraitiste, on peut dire, de cette Italie des années 60. Il a fait tourner beaucoup d'acteurs français, de Trintignant, Delon, Claudia Cardinale dans la Ragazza con la Valigia. Et donc, ça commence le 30 et puis c'est jusqu'au 9 juin. Donc, il y a 10 jours là où on verra tous les films. Et je recommande, alors ça commence par Estate Violente avec Jean-Louis Trintignant, justement. Et puis sinon, je recommande aussi le film qui sera vendredi à 19h, vendredi prochain, Cronaca Familiar, qui est d'après un roman autobiographique de Vasco Pratolini, écrivain florentin. Et ce sera présenté, c'est donc film avec Jacques Perrin et Marcello Mastroianni. Il a eu le Lion d'Or à Venise en 1962 et il sera présenté par Jean-Christophe Errari, qui est un spécialiste du cinéma, et Bernard Benoliel de la Cinémathèque, donc vendredi prochain à 19h.
Il y a toujours la possibilité de payer un petit peu moins cher.
Alors voilà, on n'a plus les invitations gratuites, mais on a toujours un mot de passe qui permet à nos auditeurs d'avoir un tarif réduit à 4 euros. C'est quand même assez compétitif au lieu de 7. Et donc ce mot de passe, il suffit de le donner aux caisses ou bien de réserver sur le site. Et c'est VZ pour Valerio Zurlini Cappuccino. VZ Cappuccino, voilà, vous présentez à la caisse en disant que vous avez le mot de passe et vous ne paierez que 4 euros. Autre chose, oui. J'ai pu voir là deux films de Riccardo Milani, le premier dans la série Canzoni e Parole, sur Giorgio Gaber qui s'appelle Io Noi, et Giorgio Gaber, très beau documentaire, où on revoit Iannacci, Mina, etc. Et puis toute l'évolution de Giorgio Gaber qui a commencé par un rocker très, très sursauté comme Celentano, et puis finalement qui a fait des chansons plus engagées, donc c'est un très beau documentaire. Et puis ce Riccardo Milani, alors maintenant on le présente comme le mari de Paola Cortellesi, qui a fait Ciao ancora domani. Et donc, son deuxième film qu'on a pu voir hier dans le ciné-club Anteprima de Paolo Modugno, Un mondo a parte, avec Antonio Albanese et Virginia Raffaele. Là, c'est l'histoire d'un petit village de la Bruzzo, dans la montagne, sous la neige, avec les loups qui rôdent autour. Et c'est l'histoire d'un instituteur qui va s'installer là-bas parce qu'il en a marre que ses élèves soient sur leur portable pendant les cours à Rome. Et donc, il va s'installer à la campagne. Et là, il y a que 5 élèves de 3 classes différentes. Enfin, ils sont 7 de 3 classes différentes dans l'école. Et on menace de fermer l'école parce qu'il n'y a pas assez de... Donc, c'est un film très drôle, à la fois, et en comédie sentimentale.
Aussi, hein,
et c'est un sujet actuel, voilà. Provence, et donc, comment font-ils faire pour récupérer des enfants
C'est un film, en Italie aussi. Ça.
On ne sait pas non plus quand il va sortir en France. Voilà.
Merci pour tout ça. Et alors là, on va faire une pause musicale avec Calcutta. Pourquoi ? Parce que c'est un groupe qui va être en concert le 9 juin. Et en fait, cette chanson la dédicace à Valentina Piccoli, Due Minuti.
Sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, a occhi chiusi. Sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea. Ma magari non è.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Là, c'était sympa, Calcutta, quand même. Hein. C'est le 9 juin à Paris. Alors, je sais que les places partent très vite. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur Internet pour les réserver. Peut-être on aura un interview, qui ça? C'est peut-être Francesco Magon qui s'occupe de ça. Alors, nous avons au téléphone Giulio Serafini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti quanti.
Ça va? Tutto bene?
Très bien,
voilà.
Tout va bien.
Calcutta, ça vous plaît?
Ah oui, ça me plaît pas mal.
C'est sympa, gentillet, quoi, on va dire. Voilà. Alors, ce qui est gentillet, moi, je trouve, c'est que vous reprenez votre pièce de théâtre, donc Pirandello Suite, théâtre de l'Épée de Bois dans le 12e, et vous étiez venu déjà en octobre pour parler. Et là, donc, ça marche bien, vous recommencez pour plusieurs jours, plusieurs représentations?
Oui, nous avons 10 dates étalées sur 2 semaines. À partir du 30 mai jusqu'au 9 juin. Et voilà, effectivement, c'était un bon succès des publics l'autre fois. Donc, nous avons l'occasion de voir d'autres dates, d'autres séances. Donc, nous avons sauté sur l'occasion et nous voilà encore à marcher sur les planches du théâtre de l'Épée de Bois.
Avec un peu de bonne humeur aussi, hein, on espère, justement, on en a besoin en ce moment avec Pirandello.
Oui, tout à fait. Disons que on a appris le Pirandello sur une vision assez que moi je retiens assez comique, enfin tragicomique. Il arrive à faire rire avec des histoires quand même assez poignantes, assez dures. Et après, je tiens à dire que quand même il y aura quelques différences par rapport à la version d'octobre, car nous avons eu un petit changement d'équipe. Nous avons deux nouveaux comédiens qui vont être avec nous. Il s'agit d'un remplacement qui était dû à des engagements précédents de Francesco Calabrese. Et nous avons la chance d'avoir un magnifique acteur comme Gerardo Marseille qui va le remplacer. Disons que c'est un peu comme une équipe de football. Voilà, il y a des joueurs qui rentrent et qui sortent, mais l'équipe est toujours la même. Et le spectacle, donc, il ne change pas.
On peut rappeler qu'il s'agit de 3 nouvelles que vous avez adaptées au théâtre. 3 nouvelles de Pirandello.
Oui, tout à fait. Il s'agit plutôt de 3 pièces de théâtre que Pirandello lui-même avait déjà adaptées de ses propres nouvelles. Et que, voilà, moi, j'ai un peu réadapté en clé moderne, plus contemporaine, pour que le public se puisse sentir un peu plus touché. Donc voilà, il y aura la patente, le brevet de sorcier, on peut le traduire.
Moi je dirais le liétator est peut-être plus que le sorcier, mais enfin bon, c'est difficile de traduire en français, c'est vrai. Mais enfin bon, c'est ça.
C'est assez complexe, un marabout... Oui. Disons, un sorcier, c'était un peu plus clair. Le deuxième volet, c'est l'imbécile. Bah, ça se traduit assez facilement, l'imbécile. Et le dernier, c'est une des pièces les plus connues de Pirandello. C'est la pièce courte la plus célèbre. C'est La fleur à la bouche, L'uomo dal fiore in bocca.
Est-ce que c'est en français, en italien? Non, mais c'est pour justement nos auditeurs, les gens qui viennent voir le spectacle.
Oui, donc c'est en italien, en langue italienne, surtitré.
Tout à fait. Voilà, ça c'est un peu le pari. Donc en France, il y a quand même une grande tradition de cinéma. Vous parlez de cinéma tantôt, surtitré. On s'est dit, pourquoi pas faire ce pari au théâtre. L'autre fois, ça a plutôt bien marché. Nous avons un peu en plus revu le surtitrage de façon que c'est un peu plus fluide pour s'améliorer toujours, parce que c'est une occasion toujours pour s'améliorer, de nouvelles dates. Et donc, voilà.
Il y a un sous-titrage.
L'autre fois, il y a eu des répondants.
On le rappelle, c'est important. Il y a un sous-titrage quand même pour les amis français.
Sur-titrage.
Et je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui comprennent l'italien, qui viennent là parce que l'Italie les intéresse.
Disons qu'avec un magnifique comédien, on a la chance de pouvoir jouer, mais il y a des têtes d'affiche comme Pirandello ou la langue italienne qui, effectivement, ils nous priment assez. Mais aussi des amoureux de la littérature. Nous avons eu aussi deux passionnés de l'Italie, des gens qui sont arrivés un peu aussi par hasard. Qu'ils ont été pas mécontents à la fin du spectacle. Vous étiez là, Lino, donc je sais que vous êtes un fan. C'est un grand plaisir de voir notre fan déjà. Alors, j'espère que ça puisse être un autre petit succès de public. D'accord. Pour pouvoir continuer sur cette lignée de spectacles en langue italienne en France.
Avec plaisir, c'est un beau pari de faire ça. On va donner
peut-être
les indications.
On peut citer aussi quand même les autres, Andrea Lanciotti.
Bien sûr, Andrea Lanciotti qui est toujours présent. Ouais. Et Gaia Mauro, que l'autre fois, c'est une jeune comédienne très talentueuse. Bah, l'autre fois, elle était en vidéo uniquement.
Virtuelle, oui.
En virtuelle. Bah, cette fois, j'ai décidé de la faire descendre de son, parce qu'elle a la régie, et donc c'est le sortitrage, justement, parce qu'elle connaît très bien la pièce, elle a assisté à la répétition. Mais j'ai trouvé que c'était un peu le moment pour elle, voilà, de monter sur scène et de jouer avec nous. C'est toujours plus agréable. Et donc, on a adapté, en fait, le comédien qui n'a pas pu jouer, Francesco Calabrese, qui cette fois m'a aidé à la mise en scène. Et là, nous avons voulu l'intégrer en vidéo.
En vidéo.
On a un peu remanié le spectacle, mais voilà, c'était l'occasion.
Un spectacle à aller voir absolument, donc au théâtre L'Épée de Bois, c'est Pirandello. Suite
à la cartoucherie de Vincennes, c'est dans le bois de Vincennes, le 12e, tout le bois
c'est
est dans
le 12e aussi, mais
voilà,
bon.
Mais c'est la cartoucherie de Vincennes.
C'est la cartoucherie.
Voilà.
D'accord.
Ouais, ne pensez pas d'arriver à Porte Dorée.
Non,
il faut prendre un bus pour aller là-bas, c'est un peu.
Oui, il y a une navette qui va du château de Vincennes jusqu'à.
Tout à fait, il y a une navette, on peut s'y rendre aussi en voiture, il y a un grand parking.
Voilà, il y a un grand parking.
Et alors. Une station Vélib pour les plus sportifs.
Cette fois-ci, vous nous offrez quelques invitations pour nos auditeurs.
Nous avions pensé, comme l'autre fois, deux invitations pour vos auditeurs.
Ici, Julien.
Ok,
merci. On va faire un petit jeu.
On va faire un petit jeu sur Pirandello.
Voilà. Merci.
Avec grand plaisir.
Merci. Et puis, peut-être que la prochaine fois, vous reviendrez directement dans les studios quand il y aura peut-être une suite ou un autre,
ou autre spectacle.
Absolument, absolument. Okay. Je tiens juste à petite précision sur les horaires, parce que voilà, l'autre fois, c'était plutôt 19h. Cette fois, on joue le jeudi, vendredi, samedi à 21h. Et le samedi et le dimanche à 16h30.
Merci Giulio et à presto.
Merci pour cette occasion.
Bon demain les gars. Bon courage pour cet après-midi. Bocca al lupo.
Merci. Viva Cappuccino.
Si, grazie mille. Ciao Giulio.
Ciao Giulio.
Ciao.
Io son sicura che per ogni goccia che cadrà, nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicura che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me e non mi scorderà. Sì, io lo so, tutta la vita sempre sola non sarò. Un giorno troverò un po' d'amore anche per me che sono nullità. Nell'immensità. Essere un piccolo pensiero nella più grande
immensità.
Nell'immensità, Milvan, très belle chanteuse. On remercie Giulio Serafini et on remercie aussi Alberto Toscano qui est avec nous. Buongiorno, com'è? Tutto bene? Alors, avant de commencer à parler de ton livre, on va démarrer un jeu pour faire gagner des places donc
voilà, pour cette pièce de Pirandello suite au théâtre de la Cartoucherie, à l'Épée de Bois dans la Cartoucherie de Vincennes. On va poser une question assez facile, je pense, de quelle région était originaire ou est né Pirandello. Donc vous nous appelez au 01 40 24 29 29.
Ah, il y a de la mer autour,
non ? Il est possible qu'il y ait de la mer. Il y a plusieurs îles en Italie. C'est peut-être la plus grande. Et voilà, à vous de trouver. Voilà, t'es originaire Pirandello.
Le téléphone, non ? C'est l'île d'Elbe.
Non, ça c'est Napoléon qui était à l'île d'Elbe.
Je vais payer le billet.
Ah oui, toi tu vas payer
le billet.
Alors, ce n'est pas l'île d'Elbe. Il y a d'autres îles encore.
Alors, 01 40 24 29 29, le téléphone, si vous appelez tout de suite. Donc vous aurez des places pour ces pièces de théâtre. Alberto di nuovo.
Buongiorno.
Alors, comment?
Comment vanno le cose?
Ça
le
va?
Cose, non, per me vanno bene, insomma. Comunque, de toute façon, il faut être optimiste dans la vie, dans les choses. On mélange les deux langues, là.
C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais en tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que ton cerveau fonctionne à fond parce que tu as une.
Tout le monde n'est pas d'accord avec toi.
Hein. Ah bon? D'accord. Mais en tous les cas, pratiquement tous les ans, tu sors un livre.
Et ça, c'est un livre particulier auquel je tiens énormément.
Alors, on va dire le titre, Alberto Toscano. Camarade Bala Banoff, vie et lutte de la grand-mère du socialisme. C'est aux éditions Armand Collin.
Ce n'est comme une biographie de cette femme qui a fait l'histoire et qui est totalement inconnue à la fois en Italie et en France. Et par contre, à la fin, je l'écris un moment un peu difficile pour ma santé, qui maintenant va beaucoup mieux, donc ça fait plaisir. Mais c'était un moment difficile, c'était 4 ou 5 mois difficiles. Et à la fin, j'écris un livre de sentiments plus que de pure histoire. Et à la fin, la biographie de cette dame est devenue presque un roman. On peut dire aussi un roman. Les choses qui sont à l'intérieur de ce livre sont vraies. Mais je les écris vraiment à ma façon, avec la chose que j'ai un peu inventée, la façon de décrire
les dialogues,
interviews imaginaires, où les textes de ses réponses à mes questions sont exactement sortis de ces livres. Mais, par contre, évidemment, mes questions sont abattées, parce que Madame Angelika Balabanov est née en Ukraine, on ne connaît pas exactement la date.
Oui, mais entre... déjà ça commençait mal, hein, parce que c'est vrai que pour elle, on ne sait même pas exactement la date à laquelle elle est née.
Voilà, et entre 1869 et 1878... la date qui est gravée sur sa tombe au cimetière non catholique de Rome est 1877. C'est la date qu'elle a choisie, mais qui n'est pas forcément la bonne. Et donc, elle est morte à Rome. L'Italie était vraiment son pays d'adoption. Elle est morte à Rome en 1965. À ce moment, la grande presse internationale se rappeler de ce que cette femme définit par le monde à l'époque la grande mère du socialisme, dont l'époque fait une page, le New York Times fait une page, on la ressort de l'oubli et tout de suite après elle retombe de l'oubli.
Alors, tu as été quand même, enfin, t'es très moderne dans ta façon de faire, de voilà, d'avoir interview un peu virtuelle, puisque c'est vraiment dans l'air du temps. On fait ça avec les chanteurs maintenant. On prend des chanteurs qui sont décédés, on en prend qui sont vivants, et puis on met des chansons, voilà, qui chantaient et ils chantent en même temps. Donc finalement, c'est très moderne ta façon de faire. Alors, en fait, les gens connaissent pas trop, puisque effectivement, elle est morte en 65, donc ça fait presque 50 ans. Et en fait, c'est une des personnes qui a été peut-être celle qui a commencé ou initié le socialisme en Italie.
Mais surtout, elle a initié une attitude d'engagement dans la politique qui conçoit la politique par le prisme de la morale. C'était une femme totalement enthousiaste, cohérente, amoureuse de la liberté et de la paix. C'était une grande pacifiste. Elle est née en Ukraine d'une famille juive très aisée. Elle décide, malgré l'attitude de sa famille, de tout quitter et de partir sans un sou pour la Belgique, parce que les femmes dans l'Empire des Tsars ne pouvaient pas fréquenter l'université. Elles voulaient étudier. Et elle arrive à Bruxelles, elle devient l'élève préféré d'Élisée Reclus, le grand anarchiste français, à l'Université libre de Bruxelles. Plus tard, elle va en Allemagne, elle arrive en Italie, et dans les toutes premières années du siècle, en Italie, elle entre dans le Parti socialiste italien, qui a été fondé par Filippo Turati et par sa compagne, qui est une autre grande émigrée russe. Elle était une russe ukrainienne, elle aussi, elle était née en Crimée, Anna Kulishev, qui en 1892 avait créé le Parti Socialiste avec son compagnon Filippo Turati. Et Angelika Balabanov entre dans le Parti Socialiste, et le Parti Socialiste, qu'est-ce qu'il peut faire d'une femme intellectuelle, mais avec un passeport russe? Elle décide de l'envoyer faire le travail politique au milieu de migrants italiens en Suisse. Et c'est en Suisse qui, un jour de printemps 1903, elle fait une conférence sur la Commune de Paris, à la Maison du Peuple de Lausanne, et c'est là qu'elle voit un jeune de 20 ans qui se laisse aller, abandonné, mal habillé, mal coiffé. Enfin, elle le considère presque un clochard à la dernière file, au dernier rang de cette salle de la Maison du Peuple. Et la conférence terminée, elle demande, mais qui est ce monsieur? Est-ce que je peux faire? Et on lui répond, oui, on peut rien faire pour lui. Il s'appelle Benito Mussolini. Et là, elle commence une autre histoire, un autre chapitre.
Alors, on va parler de cette relation avec Benito qui est duré presque 10 ans. On va écouter une chanson. C'est toi qui as sélectionné les chansons. On a écouté Milva Nell'immensità, hein, parce que c'est des chansons des années 60 qui te plaisent beaucoup. Et là, on va écouter Lucio Dalla. On a choisi Cosa Sarà. Pourquoi Lucio Dalla?
Ah, parce que c'est un chanteur que j'adore. Il n'est pas seulement un grand musicien. C'est une personne qui a le courage d'exprimer par ses chansons ce qu'il vraiment ressent. Et il y a énormément de sentiments dans la musique et dans les textes et dans les attitudes de ce grand chanteur italien que l'Italie entière regrette.
Alors, on va passer un communiqué du consulat pour les élections européennes. Tu sais que ça va démarrer dans quelques jours, bientôt, c'est le 9 juin. Et pour les Italiens, c'est le 7 et 8 juin. On l'écoute, ce communiqué en français et en italien.
Comunicato del Consolato Generale d'Italia a Parigi. Si comunica che sono stati indetti comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo. Nella circoscrizione consolare di Parigi le operazioni di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si svolgeranno venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno presso le sezioni elettorali istituite dal Consolato Generale d'Italia a Parigi. Agli elettori iscritti all'AIRE che non abbiano optato per il voto ai membri spettanti al paese UE di residenza, sarà spedito dal Ministero dell'Interno entro il 25 maggio il certificato elettorale con indicati gli orari e la località della votazione. Tale certificato sarà spedito anche agli elettori italiani che si trovano temporaneamente in un paese dell'Unione Europea per motivi di studio o lavoro e ai loro familiari conviventi, che abbiano presentato apposita domanda entro il 21 marzo scorso. Gli elettori che non avranno ricevuto al proprio domicilio il certificato elettorale potranno contattare il Consolato Generale d'Italia a Parigi e chiedere il certificato sostitutivo per l'ammissione al voto a partire dal 4 giugno. Per ulteriori informazioni e ogni aggiornamento si invita a consultare il sito del Consolato Generale d'Italia a Parigi www.consparigi.esteri.it. Nous vous informons que les élections pour le renouvellement du Parlement européen ont été convoquées. Dans la circonscription consulaire de Paris, le scrutin pour l'élection des membres italiens du Parlement européen se déroulera le vendredi 7 juin et le samedi 8 juin dans les bureaux de vote ouverts par le Consulat général d'Italie à Paris. Le certificat électoral mentionnant le bureau de vote, les horaires d'ouverture et la section où voter sera envoyé avant le 25 mai aux électeurs AIRE qui ne sont pas inscrits pour les élections européennes sur les listes électorales du pays UE de résidence. Ce certificat sera également expédié aux électeurs italiens se trouvant temporairement dans un pays de l'UE pour raisons scolaires ou professionnelles, ainsi qu'aux membres de leur famille résidant avec eux s'ils en ont dûment fait la demande avant le 21 mars dernier. Les électeurs qui n'auraient pas reçu le certificat électoral devront contacter le consulat général et demander un duplicata à partir du 4 juin. Pour de plus amples informations et mises à jour, nous vous invitons à consulter le site du consulat général d'Italie à Paris, www.consparigi.esteri.it.
Sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a vent'anni anche se vivi fino a cento. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, a morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio? Oh, cosa sarà che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta?
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?
Oh, cosa sarà
che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto,
che ti getta nel mare, ti viene a salvare?
Oh, cosa sarà
che dobbiamo cercare,
che dobbiamo cercare? Lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, è come un uccello che in volo è
è come un uccello che in volo si ferma e guarda giù.
Alors, nous sommes avec Alberto Toscano pour la sortie de son livre « Camarade Balabanov, vie et lutte de la grand-mère du socialisme » aux éditions Armand Collin. Et alors, on s'aperçoit que donc elle a fait des rencontres extraordinaires dans sa vie. Et là, on parlait justement en Suisse, elle rencontre Benito Mussolini qui est presque...
Un jeune abandonné,
finalement.
Qui ne travaille pas, qui se laisse aller complètement, qui dit être très malade, qui raconte... qui préfère parler de maladie vraie ou présumée plutôt que de chercher un travail. Il est en Suisse parce qu'il a voulu fuir le service militaire en Italie, dont il s'est réfugié pour cette façon, pas pour une raison politique d'autre nature en Suisse. Et c'est là justement qu'il rencontre cette dame arrivée de Ukraine, qui était allée en Italie et qui, en Italie, avait un certain rôle à l'intérieur du Parti socialiste italien. Il rentre à quelques mois de différence en Italie en 1904-1905 et c'est là qu'il met en valeur leur amitié, parce que Angelica Balabanov a pratiquement expliqué la politique à ce jeune Mussolini. Il a fait de lui un militant socialiste bien structuré, avec des connaissances des textes marxistes, avec une meilleure connaissance, par exemple, lui a appris des rudiments de la langue allemande, et l'a vraiment aidé. Et
on sait pas. Dit que c'est sa maîtresse.
On sait pas. Je ne sais pas.
Mais quand ça a duré sur une bonne dizaine d'années?
Et ça a duré, oui. Et ils sont entrés ensemble, presque ensemble, en Italie. Donc, ils gravissent ensemble les marches du pouvoir à l'intérieur du Parti socialiste italien, où ils représentent ensemble Mussolini, Benito Mussolini et Angelica Balabanov, la gauche de la gauche du Parti socialiste italien. Et ils se battent ensemble contre la mouvance réformatrice, disons, on dirait droitière du Parti socialiste. Et il arrive à exclure les responsables de cette mouvance. Et Mussolini gagne le congrès socialiste de 1912. Il devient l'homme clé du Parti socialiste italien et il devient le directeur du quotidien socialiste L'Avanti en 1913, et il veut que Angelica soit son bras droit à la rédaction de ce journal, de ce quotidien qui est connu dans l'Europe entière et qui fait un peu la ligne de la gauche italienne. Et ça marche bien jusqu'au jour de 1914 où la guerre a commencé en Europe, l'Italie est neutre et d'un jour le Parti socialiste italien se bat pour le maintien de la neutralité italienne de la Première Guerre mondiale, et d'un jour à l'autre, Mussolini, sans prévenir son propre parti, publie dans le quotidien officiel du parti un article en octobre 1914 qui exprime la volonté, le souhait que l'Italie entre en guerre comme alliée de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie contre l'Allemagne et contre l'Autriche. Donc il y a ce revirement solitaire de Mussolini qui provoque sa rupture personnelle avec Angelica, qui est une grande pacifiste très déterminée, et qui vote pour son exclusion du parti lors de la réunion de la direction du parti à Bologne, et qui ensuite lui voudra vraiment, elle nourrit une attitude presque de haine vers lui en le considérant un traître. En réalité, Mussolini a changé d'attitude aussi à l'intervention des services secrets français et d'autres pays et britanniques qui ont tout fait, et des milieux industriels italiens qui ont tout fait pour faire de lui quelqu'un qui soutenait la cause de la fin de la neutralité et de l'intervention en guerre.
C'est comme ça que l'Italie après rentrait en guerre en 15.
Oui, voilà, c'est pas seulement à cause de Mussolini, bien sûr, mais il y a un mouvement pro-intervention en guerre qui regarde, qui beaucoup avec la participation de beaucoup d'intellectuels italiens qui acceptent la cause de l'entrée en guerre.
D'Annunzio, par exemple.
D'Annunzio, surtout D'Annunzio, bien sûr. Et bien d'autres qui ensuite regretteront.
Alors on revient à Balabanov. Hein. Elle a connu aussi d'autres personnes, puisqu'elle a connu aussi Lénine, Trotsky.
Non, mais là, Angelica, la guerre commence. Angelica a un passeport russe. La Russie est du côté de l'Italie. Mais Angelica n'est pas du côté du gouvernement russe. Donc elle est une réfugiée russe en Italie qui se bat contre la guerre et contre le pouvoir des tsars. Donc elle doit aller vivre dans un pays autre que l'Italie. Et le seul pays en réalité non en guerre, neutre, proche de l'Italie, est la Suisse. Elle avait déjà vécu en Suisse. Elle retourne vivre en Suisse. Elle va vivre à Zurich, et de toute façon de la Suisse alémanique, et c'est là qu'elle rencontre une personne qu'elle avait, des personnes qu'elle avait déjà connues avant, surtout lors de son séjour entre Lausanne et Saint-Gall, et l'une de ces personnes est Lénine, et l'autre de ces personnes est Trotsky. Elle devient grande amie de Lénine, et ils discutent ensemble souvent de politique. En Suisse, d'ailleurs, elle est la chef de file d'un mouvement qui essaie de rassembler les partis socialistes européens pour s'engager contre la paix, mais c'est trop tard. C'est le mouvement de Zimmerwald, du nom de la conférence qui se déroule, socialiste européenne, qui se déroule dans cette localité suisse. Mais le Parti socialiste français est français, la France est en guerre. Le Parti socialiste allemand est en guerre, l'Allemagne est en guerre contre la France. Donc, parler d'un mouvement socialiste européen pour la paix, c'est trop tard pour le faire. Il n'y a que des réfugiés en Suisse qui animent ce mouvement et quelques partis socialistes de pays neutres comme la Suisse.
La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare.
Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per sapere se domani si vive o si muore.
E un bel giorno dire basta e andare via.
E poi mille strade grigie come il fumo, in un mondo di luci
sentirsi nessuno.
In un giorno solo saltare cent'anni dai cali dei campi agli aerei nel cielo.
E non capisci niente, aver voglia di tornare da te.
Cappuccino la domenica mattina? Subito, presto, fortissimo o pianissimo.
Alors pour te faire plaisir, tu as vu, on a mis cette chanson d'Alida et Luigi Tenco. Tu m'as dit surtout mais celle-là, ciao amore, ciao.
Si, parce qu'il y a tout. Et il y a une histoire d'immigration, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui quitte son pays et ça me va. Il y a une histoire magnifique, histoire d'amour entre Luigi Tenco et Dalida qui chantent ensemble cette chanson. Et il y a la tragédie. Parce que, après avoir présenté cette chanson au Festival de Sanremo en janvier 67, Tenco se tire une balle dans la tête. Ce n'est pas seulement une protestation. Certains disent qu'il a été assassiné. J'en doute sincèrement. Mais même si c'est un suicide, comme c'est officiellement admis, on doit voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Derrière ça, il y a le désarroi d'un grand musicien, mais qui est aussi un jeune animé par une envie de protestation, de contestation globale. Une envie, on est juste avant le 68, et c'est des nouvelles générations qui ont envie de se révolter et qui arrivent parfois à exprimer leur propre déception par des gestes extrêmes. Et d'ailleurs, Dalida aussi, beaucoup plus tard, fera un geste désespéré. Il y a une tragédie et il y a beaucoup d'amour derrière cette chanson. Chanson magnifique, d'ailleurs.
Alors, on revient à la camarade Balabanov. Ce qui est étonnant, c'est que donc cette femme est morte en 65 et effectivement, elle a côtoyé les plus grands du XXe siècle. Et puis finalement, elle est presque morte un peu dans l'oubli. Est-ce que c'est parce que c'était une femme qui justement est née dans un siècle où les femmes n'étaient pas mises en avant?
Oui, sans doute, sa bataille a été aussi la bataille pour l'affirmation des droits des femmes. Et dans le livre, je croise de l'histoire de six femmes, Angélica et cinq autres, qui ont eu le courage de se battre en tant que femmes. Parce que se battre en tant que femmes, c'était se battre deux fois. Pas seulement pour une cause, mais aussi pour affirmer les droits des femmes de se battre pour une cause. Pour deux choses ensemble. C'était déjà, l'engagement des femmes était révolutionnaire en soi. On parle d'une époque où l'idée même du droit de vote femme est considérée comme une pure absurdité. En 1912, l'Italie fait la réforme pour donner le droit de vote universel. Mais universel, mon œil, c'est universel seulement aux hommes, parce que les femmes ne bénéficient pas de ce droit de vote. En 1936, la gauche fait plein de réformes en France. Le Front populaire, mais il oublie de donner le vote aux femmes. Et c'est seulement à la fin de la Seconde Guerre mondiale que la France et l'Italie auront finalement, feront finalement cette réforme fondamentale et ô combien logique du droit de vote aux femmes. Et sans quoi le droit de vote n'est pas réellement, évidemment, universel. Et d'ailleurs, le film Il y a encore demain, de
Paolo
Cortellesi.
Et oui, tu l'as vu, évidemment.
Et à la fin, la dernière scène, ouais, c'est les femmes qui bénéficient en 46, finalement, du droit de vote et qui vont au siège massivement pour exprimer avec le droit de vote, le droit à leur propre dignité. Donc, il y a dans ce livre l'histoire de six femmes, Angélique et cinq autres, qui chacune à sa façon a exprimé et affirmé les droits des femmes de s'engager en politique, de s'engager dans la société et aussi de s'engager à leur façon dans la vie familiale. Et les réponses que chacune de ces femmes donne aux problèmes normaux d'une vie de femme dans le contexte de famille ou dans le contexte de la société n'est pas la même. Par exemple, par rapport à la maternité, Angélica n'a pas d'enfant, ne veut pas avoir d'enfant. Maria Giudice, grande amie d'Angélica, et qui fait d'ailleurs déjà à l'époque beaucoup de polémiques avec Mussolini, qu'ils connaissent très bien en Suisse. Maria Giudice a 10 enfants. Et la dernière de ces 10 enfants est Goliarda Sapienza, l'écrivain bien connu aujourd'hui en Europe, redécouverte en France, en Italie, dans l'Europe entière. Maria Giudice passe beaucoup de temps en prison. C'est une femme syndicaliste italienne qui paye très cher, un tribut très cher à sa détermination à faire politique, à s'engager dans la lutte syndicale en étant une femme. Et donc, chacune de ces histoires, Emma Goldman, devenue américaine, mais originaire de l'Europe de l'Est, certaines de trois de ces femmes, Maria Jude, Emma Goldman, Angélica Balabanov, quatre de ces six femmes, Emma Goldman, Angélica Balabanov, Anna Kulishoff, et dont trois, je reviens à trois, vient de familles, sont originaires de l'Empire des Tsars, de familles juives de l'Empire des Tsars, où l'oppression sur les femmes à la fin du 19e siècle est manifestement insupportable, et pour affirmer leur propre droit à exister et à étudier, avoir un rôle dans la société, il émigre. Angélica arrive en Italie, Anne arrive en Italie, Emma Goldman va aux États-Unis, et la quatrième, je reviens à quatre, excusez-moi, la quatrième, qui est Rosa Luxemburg, qui est originaire de Pologne, et va vivre en Allemagne, elle est très engagée dans la lutte politique allemande, elle aussi à la gauche de la gauche allemande, elle sera assassinée en janvier 1919.
Ci sorprese che eravamo
Ce livre, il faut absolument se le procurer. Donc d'Alberto Toscano, Camarade Balabanov, Vie et lutte de la grand-mère du socialisme. Les éditions Armand Collin, on peut le trouver partout. Hein, là. Et je crois que tu vas le présenter...
Je le présente.
Oui, bientôt. Tu l'as présenté à Bordeaux il y a 2 jours. Et là, tu vas le présenter.
Alors, tu passes une autre question. D'accord. Et à la fin, je dis où je le présente vendredi prochain.
Juste parce qu'on a encore que 2-3 minutes.
Et à quelle heure
Juste pour parler des JO, pour être un peu plus léger. Qu'est-ce que tu penses de ces JO dont on parle et on reparle depuis plusieurs années et qui vont démarrer dans quelques jours. En plus, tu vas être en plein dedans, puisque toi, tu es dans les quartiers un peu où il faudra un laisser-passer pour pouvoir bouger.
Je croyais que tu disais que je suis en plein dedans parce que je participe à des épreuves olympiques.
Qui ça?
Je dois te décevoir.
Porter la flamme, qui sait?
Je sais, peut-être.
Pour 200 mètres, ça
à 76 ans, même porter la flamme pourrait être un peu dur. Mais enfin, non, depuis le début, les Jeux olympiques rime avec politique, depuis la Grèce ancienne. On disait, les Jeux olympiques sont un moment de paix, de réconciliation. Il y a la trêve olympique. Aujourd'hui, on aurait bien besoin de trêve olympique. Et on l'a pas.
Malheureusement, ça ne se fera pas. Même en Ukraine, il ne veut pas. Zelensky, il a dit non.
Et l'histoire des Jeux olympiques modernes est aussi une histoire de politique, parce que dans nos mémoires, il y a des scènes assez impressionnantes, comme Mexique 68, ce défi au nom de la lutte au racisme de la part des athlètes américains qui expriment un salut de...
Le point levé.
Le point levé, un signe de défi au pouvoir. La tragédie, malheureusement, tragédie qui est encore gravée dans nos mémoires de Munich en 72. Il y a les Jeux olympiques à Pékin expriment la naissance d'une nouvelle Chine et sa puissance. Les Jeux olympiques auxquels nous pensons toujours en Italie en 1960 expriment la naissance et la force d'une nouvelle Italie démocratique après la tragédie du fascisme et grâce aussi à la réalité du miracle économique. La reprise d'une société italienne qui a plein d'envie, y compris l'envie de grandir dans la dimension d'une économie développée. Donc, on a plein de souvenirs de Jeux olympiques qui expriment autre chose en plus que le sport. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on va se souvenir d'ici 10 ans, comment est-ce que... Toi, tu vas te souvenir d'ici 20 ans.
Oh non, toi aussi.
Des Jeux olympiques de Paris. Et moi, je pense que ces Jeux olympiques sont un défi lourd pour le président de la République française parce qu'il doit exprimer une organisation ordonnée et efficace à un moment où la France traverse des difficultés.
Oui, beaucoup de violence.
Et il y a des
choses incompréhensibles.
Donc, pour la France actuelle, c'est un gros défi. J'espère qu'elle gagnera ce défi. Et avant les Jeux olympiques, il y aura un autre test tout à fait politique, et cette fois seulement politique. Les élections européennes du 9, en France, c'est le 9 juin, en Italie, le 8 et le 9. Et pour les Italiens dans les autres pays européens, on commence le 7. Mais enfin, les élections européennes qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Je crois que c'est un test fondamental pour la coalition au pouvoir en Italie et pour le gouvernement français aussi. En particulier, c'est un test, je pense, pour la popularité du président de la République française qui ne dispose pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et qui risque vivre des moments très difficiles lors de la deuxième partie de son deuxième mandat à l'Élysée.
Merci. Est-ce que tu as retrouvé l'endroit où tu vas présenter ton livre?
Tu vas le dire exactement.
D'accord. En tous les cas, merci à toi.
Pour l'instant, je dis au revoir
d'accord.
à tous ceux qui nous ont écoutés.
Et puis on le verra tout à l'heure à 11h. Tu vas nous le donner en antenne.
Mais merci beaucoup
pour avoir écouté ces choses. Et je vous dis seulement que, à mon avis, la vie d'Angelika Balabanov et des autres femmes qui se sont battues avec elle pour les droits des femmes et pour les droits à la paix et pour les droits à être cohérente dans un monde difficile mérite d'être étudié. Pas forcément sur mon livre, mais pensez à ne pas oublier ces femmes formidables qui ont animé la vie politique d'il y a un siècle.
Merci Alberto, et puis buona domenica a te.
Grazie.
Et on te retrouve sûrement sur France Info. Grazie. Et sur beaucoup de chaînes et de radios françaises. Merci à
grazie,
toi.
Grazie.
Voilà, merci Alberto Toscano, une émission que vous pourrez réécouter sur Top Italia et sur Aligre FM. Alors juste quelques petites infos avant de se quitter, la compagnie théâtrale nogentaise La Divine Comédie propose sa pièce de théâtre Sfumato, la Joconde, dévoilée jusqu'au 23 juin. Si vous voulez plus d'informations, c'est le 01 43 55 14 80 et c'est à la Folie Théâtre qui se trouve dans le 11e arrondissement. Le bal Rital aura lieu le 1er juin à 20h à la Marbrerie de Montreuil, la fête italienne déjantée. Donc si vous êtes intéressé, eh bien il faut téléphoner au 01 43 62 71 19. Restauration italienne sur place, métro Mairie de Montreuil. Et puis également la Divina Comedy Show organise une soirée le 2 juin au restaurant Les Deux Pianos rue de Lourmel dans le 15e à 20h. Pour plus d'infos, vous y allez directement et on peut manger et boire en même temps pendant cette soirée. Ecco finito quasi.
Le train est parti, Michel.
Non, on n'a pas eu beaucoup le temps de donner beaucoup d'informations, mais c'est vrai qu'on a eu un programme très chargé avec Giulio Serafini également pour Pirandello. Et donc voilà, on salue Riccardo Guerrieri qui est à côté de nous. Il nous donne la chaleur de la Calabre.
On salute.
Tiens, d'ailleurs, juste puisqu'on a deux secondes, à la rentrée, on aura des petites pastilles d'une minute, qui, un peu comme toi, comme tu fais avec tes dictons le matin. Là, ça sera des dictons calabrais.
Mais qui nous viennent du Québec.
Du Québec, en plus avec l'accent québécois, italien et calabrais. Donc voilà, un dicton et ça expliquera ce que ça veut dire. Mais c'est très bien fait, une par semaine. Ça durera 10 semaines, mais bon, ça sera la rentrée, on n'y est pas encore, hein. On est encore là, encore au moins jusqu'au 14 juillet, si tout va bien, on l'espère, hein, avec Enrico qu'on salue. Baci, baci.
Grazie Enrico, grazie.
Cantaline.
Je vous salue tous, et encore une fois, bonne fête à toutes les mamans.
Eh oui, ça, il faut vraiment.
Faut pas les oublier.
Surtout si vous l'avez encore, voilà, si vous avez les chances d'avoir la maman.
Ouais, pour qui tu l'as encore.
Si. À la même
bon dimanche quand même. Aujourd'hui, il va faire beau, hein, c'est bien connu, comme tous les dimanches sur Aligre FM, sur Cappuccino.
Pourquoi pas demain, il fera beau et nous, on se verra dimanche prochain.
Alors, on se revoit quand, nous?
Mais à partir des 8 domenica prossima.
Et si comme
toutes les domeniques.
Eh, benissimo. Après, tu auras du changement, on verra peut-être avec les locaux, on va peut-être monter, descendre. Enfin, ça va être un petit peu encore. un petit peu de déménagement encore dans ces prochaines semaines.
Non.
Ça sera pour le plaisir de Cappuccino et d'Aligre FM. Merci Enrico. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.